Bien?
Oui.
Yes! So, on est dans le printemps, là. Super. Est-ce que je prends celui-là? On va l'allumer. Ici, sur le côté. Et voilà, c'est vert. Comme la circulation, on peut y aller.
Ah, je suis content de vous voir aujourd'hui. Super. Joyeux Noël à tous et à toutes. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Peut-être que vous avez été invités par un ami de la famille à l'occasion de cette période des fêtes. Et je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin pour la deuxième fois en fait. Ça va faire 6 mois, je ne sais pas si j'ai... Dites-le-moi, est-ce que j'ai perdu mon accent ou été en voie de perdition mon accent du Québec après 6 mois? Il est encore là? Ok, yes, bon. Je ne vais pas renier non plus mes origines, mais mes origines québécoises. Mais en même temps, c'est sûr que je commence à reprendre des intonations un petit peu de par chez nous. Vous allez bien? Oui. J'étais pendant le déroulement de cette matinée et je me suis mis à la place de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est l'Église, Dieu, les chants, les prières. Puis je me suis dit, si je viendrais ici pour la première fois, là, moi je suis né dans une famille chrétienne, etc., mais si vraiment j'étais une personne qui avait aucune notion de ce qui prend place là, je me dirais, mais c'est des fous. Mais ils sont fous. Parce qu'il y a des prières, mais je vois personne. Prie à un mur, commence à chanter, merci Seigneur, oui Dieu, tu es avec nous dans tous les temps. Moi je regarde autour de moi, je vois rien. Je vois pas de Dieu, je vois pas de Seigneur, je vois pas de Jésus. Puis ça, c'est sans compter si j'imagine le genre de vie, de difficulté que je pourrais traverser, où je peux me sentir dans des périodes, on l'a entendu, les différentes saisons, dans des moments de difficulté incroyables, dans des moments de drame. Puis là, j'entends, oui, Seigneur, merci, mais ils parlent à qui? Ils se parlent entre eux, c'est quoi? Ils récitent un poème, c'est quoi? Non. Mais en fait, j'aimerais vous dire que Jésus est vraiment vivant. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui. Dieu existe pour de vrai. Dieu existe pour de vrai. C'est pour ça qu'il y a de la joie. C'est pour ça qu'il y a un enthousiasme. Alors oui, ça a l'air fou parce qu'on ne le voit pas concrètement, mais je crois que Dieu est comme le vent. On ne voit pas le vent, mais on peut voir l'effet du vent sur les arbres. On ne voit pas Dieu, mais on peut voir l'effet de l'amour de Dieu dans la vie de plusieurs d'entre nous. J'aimerais lire un grand classique de la littérature biblique concernant dans le contexte de Noël dans lequel nous sommes, qui se trouve dans Matthieu chapitre 2, on va lire les 13 premiers versets, de temps en temps je vais m'arrêter, il y aura juste à suivre, il n'y a rien de compliqué. Mais je me pose une question, en 2016, où est Jésus? Où est Jésus en 2016? Bon, commençons notre lecture. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. On a les mêmes... La même version, ça va jusque-là? Excellent. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs? Où est-il? Alors, je m'arrête quelques instants. Parce que si l'on se fie au récit biblique, l'humanité aurait débuté dans un jardin. Dans un jardin dans lequel les premiers hommes ont pris naissance à partir de la poussière de la terre, bon, on connaît l'histoire, et là où je vais en venir, c'est qu'à un moment donné, dans ce jardin, il y avait un règlement, comme on peut avoir des règlements pour nos enfants dans une maison ou dans un pays, dans une société quelconque, et un des règlements, c'était « tu peux manger tous les fruits des arbres de ce jardin, sauf un ». Et voilà que l'homme a fauté. Les premiers hommes ont fauté, ont péché, appelez-le comme vous voulez, ils ont fait une erreur, ils ont désobéi. Ils n'ont pas rencontré le plan qui était prévu, l'entente qui était prévue entre le Créateur et eux. Et à partir de là, il y a eu un cataclysme, je crois qu'il y a eu un cataclysme cosmique qui a pris place où le cœur de l'homme et de la femme, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, c'est endurci, c'est refroidi, il y a une déconnexion, pour prendre des termes informatiques, une déconnexion complète et totale qui s'est faite entre l'humanité et Dieu, et l'homme s'est retrouvé, l'être humain s'est retrouvé tout seul, il s'est caché. Et voilà que la Bible nous dit dans ces récits, dans ce récit-là, que Dieu se promène dans le jardin, il se promène. Puis tout d'un coup, il va dire, hey, où es-tu? Adam, où es-tu? Comme si Dieu ne savait pas où est-ce qu'il était. Non seulement Dieu savait où est-ce qu'il était, où est-ce que nous sommes aujourd'hui, mais il sait où est-ce que nous en sommes. C'est une chose de savoir où est-ce que tu es, je sais que tu es là, tu es assis ici. C'est une chose, tu es là géographiquement parlant dans ce lieu, mais où en es-tu dans ta vie? Et il pose cette question, où es-tu? Et voilà que des milliers d'années plus tard, le tome 2 de ce que Dieu prévoit pour l'humanité, le tome 1, que certains appelleraient l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, aujourd'hui, dans le texte que nous allons lire, nous arrivons dans le tome 2, la nouvelle version, l'homme 2.0. Et des milliers d'années plus tard, on arrive dans ce texte-là, alors que nous sommes dans cette période de Noël, nous lisons ce récit, un grand classique que nous connaissons tous, et là, ce n'est plus Dieu qui dit « Où es-tu ?» mais c'est l'homme qui dit « Où est le roi des Juifs ? » Autrement dit, où est-il ? Et c'est pour ça que je pose la question, où est Jésus en 2016 ? Alors qu'il y a des milliers d'années plus tard, Dieu posait la question, où es-tu ? On arrive dans l'installation de ce contexte-là où il y a l'installation de cet homme version 2.0. J'appelle Jésus la version 2.0 dans le plan de Dieu, c'est-à-dire qu'il va accomplir ce que les premiers hommes n'ont pas réussi à accomplir. C'est plus qu'une version améliorée même, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Où est-il? Là, c'est les hommes qui cherchent. Et je crois que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Oui, on vous a invité, oui, c'est Noël, oui, il y a un contexte, mais je pense que chacun, chacune d'entre nous, peu importe le cheminement spirituel dans lequel nous sommes, il y a toujours cette question, où est-il? Et peut-être que vous êtes là pour la première fois, je ne sais pas, et peut-être qu'il y a cette question, où est-il? Et cette question peut se prendre des couleurs différentes, des tons différents, mais c'est peut-être pas clairement mentionné où est Dieu, où est Jésus, le roi des Juifs, ou bon, le sauveur de l'humanité. Mais il y a quelque chose en dedans de nous, dans le cœur de l'homme qui dit, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est ce besoin que j'ai besoin, ce vide qui a besoin d'être comblé? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'est cette véritable religion authentique? Où est-ce qu'il est ce Dieu, ce sens de vivre? Où est-il? Est-ce qu'il y a une raison d'être? Est-ce qu'il y a une raison de vivre? Alors je pose la question en 2016, où est Jésus? On va continuer notre récit, au verset 3. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. À Bethléem, une petite ville de rien du tout. Juste là, je m'arrête. J'ai vu il n'y a pas très longtemps la bande-annonce de Transformers. Les Transformers, bon, un film de super-héros, Marvel, ou je ne sais plus si c'est Marvel, mais vous voyez de quoi je peux parler. Je ne pense pas que c'est lui, mais bref. Mais dans la bande-annonce, ça m'a frappé parce que là, c'est vraiment la bande-annonce. Le son, puis il y a les robots et les êtres humains. Il y a deux races qui sont là. Et à un moment donné, dans la narration, c'est écrit au milieu des milliards de galaxies, etc., quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Terre? Pourquoi la Terre? Mais si on s'arrête quelques instants, je me dis au milieu des milliards de galaxies, quand on ferme les yeux ou qu'on se remémore tout ce qu'on a pu voir dans nos cours ou dans d'autres contextes, sans être un scientifique expert, c'est immense la galaxie. Pourquoi la Terre? Puis là, non seulement la Terre, c'est quand même assez grand à nos yeux, mais c'est juste une poussière. Mais là, on s'arrête sur une petite ville de Bethléem. Et c'est là que Jésus va naître. Wow! Juste là, je dis, Seigneur, tu nous aimes vraiment pour avoir pris la peine de t'arrêter là. Pourquoi chez nous plus qu'ailleurs? Je vois juste l'amour de Dieu. Donc à Bethléem, ça se passe. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, hein, où es-tu, où est-il ? Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi !» Prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. OK. Aujourd'hui, c'est beau Noël. Aujourd'hui, on a la fin de l'histoire. On peut se réjouir. Aujourd'hui, quand Noël arrive, bon, c'est beau pour ceux et celles qui ont de la famille. C'est sûr, pour ceux qui sont dans la solitude, c'est un moment qui est des plus dramatiques dans l'année. Mais en règle générale, même quelqu'un qui est seul, il y a une frénésie dans la rue. Nous, on aime ça sortir dans les rues, puis regarder les décorations, les lumières, et regarder les maisons. Ah, ils ont mis une étoile, ils ont mis du rouge et du vert. Oh, ces couleurs-là, ouais, bon, ça va pas trop bien ensemble. Mais quand même, il y a de la vie. Tu sais, on critique, on regarde, on s'émerveille. T'arrives dans les magasins, puis là, c'est comme, oh, il y a même des actions, des soldes, des cadeaux en solde. Il y a comme une joie qui est là, et on prépare nos cadeaux, on prépare le sapin, on prépare tout ça. Et peut arriver à un moment donné où on oublie même nous-mêmes, comme croyant, la raison pour laquelle on est en train de magasiner en bon québécois. On est en train de faire nos commissions, notre épicerie. Puis des fois, il faut juste arrêter. Hey, c'est vrai, dans le fond, c'est pas ma fête à moi, c'est celle à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. C'est un moment magnifique, pas mal partout à travers la terre, peu importe les cultures, avec ou sans neige. Mais lorsqu'on s'arrête dans le récit, le contexte dans lequel Jésus a pris naissance, il arrive vraiment pas dans un moment favorable. Ou en fait, je dirais plutôt qu'il va, on parlait des saisons, on ne peut pas dire qu'il arrive dans une saison hivernale, mais sa venue va déclencher une tempête sans nom sur sa vie. C'est comme si la venue de Jésus, c'est pas comme, c'est ça, mais j'aimerais oser l'expression, d'une certaine façon, c'est comme s'il déclenchait les foudres de l'enfer. C'est quelque chose, parce que le récit, on ne lira pas, on ne l'a pas lu par la suite, vous lirez les prochains versets, mais vous le connaissez peut-être. Mais quand Hérode va voir qu'il s'est fait jouer un tour, puis qu'il n'est pas en mesure de mettre la main sur le petit enfant, soi-disant pour l'adorer, parce qu'entre vous et moi, on sait très bien, mais on le sait, hein, on le sait, il nous le dit, là, on connaît l'histoire. Il ne voulait pas l'adorer, il voulait l'assassiner. Mais quand Hérode va réaliser qu'il s'est fait jouer un tour, vous lirez la suite des versets, il va massacrer tous les enfants, les jeunes enfants, pour s'assurer qu'ils mettent la main sur celui qui aurait le potentiel d'être le roi des Juifs. C'est un crime immonde. Le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà avant. Quelqu'un a dit que la valeur d'un homme se reconnaît à la grandeur de ses ennemis. C'est intéressant, ça. La valeur d'un homme ou d'une femme, la valeur d'une personne, se reconnaît à la grandeur de ses ennemis. Parce que si quelqu'un n'a aucune valeur, pourquoi est-ce qu'on commencerait à lui faire autant de mal? Et là, ce n'est pas juste une petite persécution, une petite contrariété, une critique, ou je suis contre le parti de l'opposition, parce qu'Hérode ici représente le parti de l'opposition, le parti adverse de celui de Jésus. Hérode, un roi qui a droit de vie et de mort, qui est dans un contexte politique, voit son trône menacé, son trône temporel menacé. Et c'est pas n'importe qui. Alors pour qu'un homme comme Hérode, comme le roi de Juda, de cette contrée-là, prenne la peine de déployer ses armées pour mettre la main sur un bébé, même pas un soldat ou un jeune ado qui est sur le point de prendre les armes parce qu'il va s'enrôler dans la guerre, qui aurait le potentiel de devenir quelqu'un de dangereux. Non, un bébé naissant qui prend la peine de déployer ses armées pour l'assassiner, l'égorger ou le tuer de je ne sais pas quelle façon, je me dis, OK, je serais le plus grand des athées. Si je m'arrête quelques instants là, je dis, qu'est-ce que tu as à perdre? Si Jésus n'existe pas, si Jésus est si peu important, pourquoi déployer des armées pour l'anéantir? Si Jésus est si peu important, pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui meurent partout, dans plusieurs endroits en tout cas au Moyen-Orient? Si Jésus était si inexistant que ça, si sans valeur, si sans prétention que ça, si passé plus à la mode que ça, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'énergie sont déployées pour anéantir des croyants, des chrétiens? Alors ça me dit, OK, c'est un ennemi qui est grand. La valeur d'un homme se reconnaît à la grandeur d'un ennemi. Alors si je regarde à la grandeur de l'ennemi, je dis, wow, quelle valeur doit avoir ce petit bébé dans ce berceau? Quelle valeur extraordinaire! Celui qui ne se sent pas menacé, vas-y, continue, fais ton chemin, tu ne me déranges pas, je vais rester indifférent. Mais juste la réaction d'Hérode nous en dit long sur la grandeur de Jésus. Jésus est venu dans un lieu qui menaçait de destruction, la destruction à la fois de sa naissance, on le voit, il veut chercher à le tuer, qui menaçait la destruction de son nom, et qui menaçait la destruction de la nourriture que Jésus s'apprêtait à offrir. On est à cette période de Noël, on aime manger les bons repas. Il n'y a rien de tel qu'un bon repas pour réunir des gens. Hein. C'est, on dit que tout passe par le ventre. Hein. Et même dans nos vies, lorsqu'on a des besoins, des carences psychologiques, émotionnelles ou autres, eh bien, on va se défouler dans la nourriture. On parle beaucoup parfois de la drogue, de la sexualité, mais on oublie parfois que la nourriture peut devenir aussi quelque chose qui peut devenir malsain quand c'est abusif. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a parfois un vide dans le cœur de l'être humain et on essaie de le combler littéralement. Là. C'est prouvé psychologiquement. Littéralement, on essaie de le combler, ce manque d'amour, ce vide, l'anxiété, l'angoisse, par de la nourriture, par des aliments. Et Jésus est venu sur cette planète parce qu'il savait qu'il y avait un besoin qui allait au-delà des aliments physiques. Il dit, moi, je veux être cette nourriture. Mais cette nourriture est menacée de destruction. Il n'y a rien qui a changé depuis aujourd'hui. Nous savons qu'Hérode voulait l'assassiner, il ne voulait pas venir l'adorer. Sa naissance a dérangé. Aujourd'hui, la naissance de Jésus dérange encore. On peut faire nos magasinages, nos Noël, parler avec nos voisins. Puis, c'était quoi ton cadeau? Puis, j'ai trouvé la dernière version du iPhone, etc. pour mon fils ou ma fille ou moi-même. Ah, joyeux Noël! Joyeux Noël! Puis, par contre, quand on s'arrête, puis au fait, qu'est-ce que tu en penses de celui qui est fêté? De quoi tu parles? c'est joyeux Noël. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne vois pas de quoi tu parles. Ou moi, ces affaires-là, Jésus. Là, tout d'un coup, Noël, c'est plus si joyeux que ça. Pourtant, c'est la raison d'être pour laquelle nous fêtons. Moi, je prie qu'aujourd'hui, que ce matin, aujourd'hui, ce message-là puisse nous conduire à Jésus avant que les Hérodes de notre vie puissent faire avorter la naissance de Jésus dans nos vies. Puissent faire avorter le projet que Dieu a pour nous, c'est-à-dire de trouver. Où est-il? Je prie vraiment que ce message puisse nous conduire à Jésus avant que les Hérodes de cette vie fassent boycotter, avorter le projet de Dieu pour notre vie. Ne permettons à rien ni à personne, à aucune pensée, aucun prétexte, aucune circonstance de venir supprimer le potentiel de naissance de Jésus dans nos vies, dans nos pensées. De quoi tu parles, les Hérodes d'aujourd'hui? Oui, parce que, en passant, c'est intéressant parce que Hérode, voyez-vous, il a plus de foi que certains chrétiens parce qu'il ne remet pas en doute la prophétie. Hein. Oui, il y a un enjeu politique qui est là, c'est clair. Mais il ne dit pas, oh, non, ça c'est une légende. Non, non, il prend très, très au sérieux la prophétie qui était dite depuis des années bien avant. Et parfois, nous-mêmes, comme chrétiens, on peut même parfois se dire, est-ce que c'est vraiment vrai? Puis où est-ce que Dieu a vraiment dit que? Puis, non, Hérode, un des pires ennemis de Jésus, en tout cas à cette époque-là, ne pose pas d'objection à ça. Alors, je reviens au Hérode d'aujourd'hui. Je crois que Dieu a un projet pour toi. Je me permets de vous tutoyer. On va faire comme si on était dans notre salon ensemble. Joyeux Noël. Je crois que Dieu a un projet pour toi. Je crois que si on est honnête avec soi-même, on a tous une recherche de l'essence même de la vie. Et parfois, il peut y avoir des Hérodes. Ça peut prendre quelle forme? Les Hérodes d'aujourd'hui peuvent se manifester sous la forme d'un mensonge cherchant à nous convaincre que Jésus n'existe pas. Un mensonge bien ficelé, bien mis en place, avec des bons raisonnements sur toutes sortes de 1 plus 1 font 2, et puis si Dieu existait, il n'y aurait pas ceci. Puis, conclusion finale, ah non, ça c'est juste pour des infirmes, des petits vieux qui sont en perte de, qui ont un désespoir profond. Moi je connais des gens qui sont riches, qui sont jeunes, qui aiment Jésus avec tellement de passion, parce qu'ils ont découvert que c'est beaucoup plus qu'une religion. Alors c'est ce genre de mensonge-là peut être comme un Hérode qui cherche à faire avorter le projet de Jésus pour votre vie. Peut venir sous la forme aussi d'un sentiment de condamnation. Dire, je suis prêt à croire qu'il y a quelque chose. Puis même j'allais plus loin, je suis prêt à croire que c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est Jésus, je suis prêt à le croire. Mais si tu connaissais ma vie, mon passé, mes péchés, mes erreurs, mes manquements, mon historique de vie, Si tu allais dans l'historique de ma vie, comme on irait dans l'historique d'un ordinateur, même ton Jésus pourrait rien pour moi. Et ça, c'est encore un Hérode qui cherche à semer à travers ce sentiment de condamnation, de culpabilité, de dire, oh non, et boum, on s'arrête là et le projet que Jésus a pour toi vient d'être avorté par une mauvaise conception que tu pourrais avoir de Jésus. Il n'y a rien qui est plus grand que Jésus, même tes pires péchés accumulés ensemble. Même toutes les méchancetés de l'humanité accumulées ensemble ne sont pas assez grands pour anéantir l'amour de Dieu à ton égard. Alors ne permets pas, entre guillemets, à cet Hérode de venir boycotter ce projet. Les Hérodes d'aujourd'hui peuvent prendre la forme aussi non seulement d'un mensonge, d'un sentiment erroné à l'égard de qui est Jésus et de ce qui nous sommes, mais peuvent prendre aussi la forme d'une méfiance. Une méfiance, une déception, j'irais plutôt. Une déception à propos de quelqu'un, d'un vécu. Écoute, moi, je crois, c'est vrai. Mais si tu savais, toi, tu es en avant, puis tu prêches, tu es pasteur, puis j'ai connu des chrétiens, je suis déjà allé dans une église, puis tu savais le mal qu'on m'a fait. C'est ça, votre Dieu. C'est ça, votre Jésus, que vous louez, que vous chantez, que vous priez. Eh bien, on va s'asseoir ensemble, puis je vais te raconter ce qu'il m'a fait, moi, ton Jésus. Je vais t'écouter, mais à la fin de l'histoire, je vais te dire, t'as raison d'avoir mal. Mais ce que tu as vécu n'est pas le reflet de qui est Jésus. C'est le reflet d'hommes et de femmes imparfaits, méchants, mal intentionnés, qui en portant une étiquette de chrétien t'ont fait du mal. Mais ça n'a rien à voir avec le Jésus que je connais. Et parfois, ces déceptions-là peuvent dire, moi, c'est Noël, je vais venir, parce que bon, c'est la tradition, je vais venir, mais... Et l'on peut. C'est comme un Hérode qui vient boycotter, faire avorter encore une fois la présence du projet, la volonté du projet de Dieu pour votre vie. Laisse-toi pas avoir. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on n'accepte pas Jésus. Quand je dis je ne peux pas comprendre, ce n'est pas dans une pensée de jugement, comprenez-moi. C'est juste, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est un grand classique, surtout quand on a mal au dos. Il y a plein de domaines, ça peut être appliqué à plein de domaines. Oh, j'ai mal au dos. Alors là, je suis sûr, si je vois que j'ai mal au dos, à la sortie, j'aurais minimum 5 à 10, 15 personnes qui viendraient. J'exagère peut-être un peu. Hey, Philippe, moi, je connais un bon chiro. Un autre arrive. Moi, je connais un bon ostéopathe. Un autre, moi, je connais un bon physio. Ah, lui, au coin de la rue, t'habites où? Ah, oh, ouais, dans ce coin-là, écoute. Tout le monde a sa recette. Tout le monde a son médecin. Tout le monde a son bon conseil. Tout le monde a sa façon de faire parce que tout le monde a son expérience propre, bénéfique. D'avoir traversé un lombago et etc. Puis hey, moi je suis resté bloqué pendant 3 mois et puis ça m'a tellement fait du bien. Faut que tu l'essayes. Puis là je dis mais voyons t'as mal. Je suis en train de te dire que je connais le physio des physios qui peut te faire marcher plus rapidement que prévu et tu me dis non. Je comprends pas. Mais tout le monde aurait sa recette. Mon point ici c'est quand t'as découvert qui est Jésus, faut même que je me calme. Parce que c'est tellement bon que tu veux pas le garder pour toi. Tu veux pas le garder pour toi-même. Ce Jésus est tellement bon. Petit détail qu'on défend, on oublie. Jésus est venu sur la terre et, le petit détail qu'on oublie, il est venu pour pardonner la méchanceté même d'un Hérode qui a sacrifié des enfants. C'est quelque chose, hein? Les mêmes personnes qui lui ont fait du mal, si on remonte plus loin, on va à la croix, il dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais ce pardon est disponible, est accessible à ce même Hérode ou ce type de personne. C'est là qu'on voit l'amour de Jésus, encore une fois. Quand est-ce qu'on voulait encore annuler son nom? Joseph lui-même ne voulait pas se mouiller. Le père adoptif, on pourrait dire, de Jésus. Il voulait répudier, rejeter sa femme. Ne soyons pas de ces Josephs qui avons honte de Jésus. Et puis, le Seigneur va lui parler, va le rassurer, dire, keep cool, Joseph, sois relax, je suis dans le portrait. Puis même, tu vas lui donner un nom, tu vas l'appeler Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Alors Hérode, en voulant attenter à la naissance de Jésus, oui, il protège son trône, mais il en a anti un nom. Un nom qui veut dire sauveur, qui a le pouvoir de sauver. Puis le nom de ce Jésus-là, encore aujourd'hui, on en parle. On en parle. Et encore aujourd'hui, un impact extraordinaire. Il naît à Bethléem. Bethléem veut dire la maison du pain. Je ne sais pas si c'est un hasard. Moi, le peu que je connais de Dieu, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Mais c'est quand même curieux que Jésus naisse dans le lieu qui s'appelle la maison du pain. Et je pense que le pain par excellence, c'était Jésus qui s'offrait à l'humanité. Cette nourriture qui vient combler le vide de nos âmes, l'anxiété, la crainte, les déceptions. Ultimement, premièrement, ce n'est pas pour nous donner une belle vie, c'est pour qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. Et aujourd'hui, le berceau de Jésus est vide. Savez-vous qu'il est vide? Il est vide, hein? Pourquoi il est vide? Parce qu'un berceau avec un enfant de 16 ans dedans, ça ne marche plus, là. Il y a une anomalie à quelque part. Physiquement, il y a une raison très claire. Mais de façon immatérielle, spirituelle, si on pourrait dire, immatérielle, si le réseau est vide, il y a une autre. Le berceau est vide, il y a une raison, c'était pour remplir nos cœurs. Nos cœurs font office de berceau. Mais pour passer de ce berceau vide à remplir nos cœurs, il y avait une étape intermédiaire. Il fallait d'abord remplir, non pas le bois du berceau, mais le bois de la croix. Et Jésus va quitter le berceau pour remplir le bois de la croix, afin que depuis sa résurrection, ceux qui placent leur confiance en lui se retrouvent avec la remplissure, la plénitude, la présence de Dieu, de Jésus dans notre vie. Et c'est tout ça que Jésus est venu faire. Je vais terminer avec ceci et je pose la question. Seulement vous pouvez répondre, moi je ne peux pas répondre à votre place, je ne peux pas vous mettre la réponse dans votre bouche quand je pose la question, où est-il? Où est-il dans ta vie? Est-ce qu'il est dans le berceau d'une éducation reçue dans le passé, chrétienne? Est-ce qu'il est dans le berceau d'une tradition judéo-chrétienne actuelle? Est-ce qu'il est dans le berceau des souvenirs, d'une mémoire lointaine? Ou est-ce qu'il est vraiment dans le berceau d'une relation concrète avec lui, c'est-à-dire entre toi et lui? Moi, là, Jésus a changé ma vie. Pas plus tard que cette semaine, c'est vendredi, effectivement, vendredi qui vient de passer. Vous savez que je suis revenu à Genève et j'ai reconnecté, on s'est retrouvé, j'ai retrouvé un ami d'enfance que j'ai plus revu depuis l'âge de 18 ans. Ça faisait 28 années qu'on s'était perdu de vue. Lui était parti aux États-Unis, moi au Québec. Il ne savait pas que je suis au Québec, je ne savais pas que c'était aux États-Unis. On s'est juste perdu. Mais avec ce gars-là, j'ai fait mes 400 coups. Pendant le laps de temps qu'on était, j'ai fait mes 400 coups. Mais grave, là. Et là, on s'est revus 28 ans après. Et les deux, on s'est payé une fondue, mon ami. Oh! Avec un petit vin blanc de derrière les fagots. À l'armure, à la vieille ville, c'était de toute beauté. Quelle retrouvaille! Lui a gardé la foi, j'ai gardé la foi. Vous savez quoi? J'en parle, puis ça m'émeut. Ça m'émeut. Parce que j'ai même mis sur ma page Facebook, puis Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le mérite. Parce qu'il a la photo, on est là les deux, puis j'ai écrit hashtag deux miracles sur deux pattes. Puis c'est vraiment, si vous auriez vu ces deux bonhommes-là, David et moi, qui s'appelle David, à l'âge de 18 ans, il n'y a pas un homme sur cette terre qui aurait dit qu'aujourd'hui qu'on serait là. Pas un homme, pas une femme. Il n'y a pas une statistique qui nous aurait dit, qui aurait pu prédire qu'on serait là. Vous savez pourquoi? Parce que autant lui que moi, si ce n'était pas à cause de Dieu, si ce n'était pas à cause de Jésus qui est né un jour, il y a des milliers d'années dans un berceau, qui est monté sur une croix et que nous avons reçu dans notre cœur, qui a eu un impact, si ce n'était pas à cause de cette personne-là que l'on célèbre aujourd'hui, autant David que moi, nous serions soit à deux endroits, au bout d'une corde ou dans une prison. C'est clair. Ça, par contre, c'était clairement prédictible. Et vous savez quoi, l'ironie du sort? Là-dedans, il y en a un des deux qui est pasteur. Jamais il y a quelqu'un qui aurait pu prédire ça. Puis lui, il a le droit au port d'armes. C'est juste de la folie! Tu ne peux pas prédire ça à l'âge où on était à cette époque-là, dans le contexte dans lequel on était, dans un contexte vraiment défavorable, un contexte de destruction. Malgré ça, Jésus a pris naissance. Et de la même façon que Jésus arrive dans un contexte de destruction, sa naissance est menacée de destruction, son nom est menacé de destruction, sa vie, c'est tout ce qu'il est menacé de destruction, mais c'est dans ce milieu de destruction-là que Dieu met sa main de protection et fait émerger le sauveur de l'humanité. Et aujourd'hui, tu m'entends et tu te dis, mais moi, je suis tellement pas dans un contexte. Tu m'aurais parlé la semaine passée, l'année passée, ça allait tellement mieux dans ma vie, j'aurais été tellement beaucoup plus réceptif, mais aujourd'hui, c'est pire que jamais. J'aimerais dire justement, dans le pire que jamais de ta vie, dans le pire automne de ta vie, dans le pire hiver de ta vie, eh bien, il y a un projet divin pour toi et Jésus veut plus naître dans un berceau. Il l'a déjà fait une fois, c'est assez, ça suffit. Et le plus beau cadeau que nous pouvons offrir à notre Seigneur Jésus, c'est dire, Seigneur, j'ai rien à te donner, mais voici, j'ai un cœur. Il n'est pas parfait, il est pas mal laid, mais je te le donne quand même si tu le veux bien. Tout simplement. Où est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il est perdu dans une tradition lointaine ou est-ce que tu veux le retrouver? J'ai invité, je ne sais pas, peut-être les musiciens, puis je veux juste qu'on puisse terminer, se recueillir, réfléchir, peut-être à travers un chant, puis réfléchir à cette question. Où est-il? Moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Moi, j'aimerais te dire, il est partout à la fois, il est ici, et puis il peut être là. Et dans toute simplicité, si ce matin tu dis, Seigneur, je ne me rappelle plus où est-ce que tu étais. Où je ne pensais pas que tu étais si proche de moi. Est-ce que tu veux? Je te donne la permission, l'accès au quotidien de ma vie, à mes pensées, à tous les brouhaha qu'il peut y avoir dans mes pensées. Puis si vraiment tu existes, là, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton pardon, accorde-moi ta paix, accorde-moi cette assurance qu'il y a une vie pour l'éternité à tes côtés, accorde-moi ta présence. Je prie que rien ni personne aujourd'hui ne vienne avorter le projet de Dieu pour toi, la naissance de Jésus dans ta vie. Yes? Je vous laisse sur ces paroles. Merci beaucoup pour votre attention. Seigneur, je te remets chaque personne, chaque ami, chacun d'entre nous, moi-même, je veux me remettre entre tes mains. Et Seigneur, on a toujours besoin de découvrir quelque chose de plus de toi. Et tu connais nos cœurs, tu n'es pas celui qui juge, tu n'es pas celui qui force la porte. Tu te présentes, tout simplement. Alors Seigneur, j'ai prié que, juste par ton esprit, par ta douceur, tu puisses sécuriser, que des cœurs puissent s'ouvrir à toi, que des destinées puissent changer, qu'un nouveau scénario de vie puisse prendre place, ton scénario, Seigneur, mélangé au nôtre. Merci pour ta naissance. On va dire joyeux anniversaire, Seigneur. Sois élevé. Reçois cette louange. Reçois nos cœurs comme le seul et unique cadeau que nous pouvons t'offrir, sans aucune prétention, en toute simplicité. Reçois nos vies comme un cadeau que tu as hérité. Amen.
Je veux toi. J'aimerais dire un grand merci. Un grand merci pour ceux qui ont participé au culte de ce matin. Un grand merci aussi à ceux qui ont participé à notre fête de Noël de hier. On va surtout pas citer des noms parce qu'il y en a tellement que je suis sûr d'en oublier en tout cas une bonne partie. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Mardi, nous avons les cellules de prière qui vont se retrouver pour la zone de Gex chez Didier et Loredan, pour la zone de Prefsin, j'imagine, chez Emmanuel et Rebecca, et pour la zone de Perron-Farge, le côté sud du pays de Gex, chez Raymond et Pascal. On l'a déjà dit, samedi prochain, on aura une veillée de Noël. La chorale va participer à une veillée de Noël à Coponnet. Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Ce sera à 17h. Et à partir de 10h, on va commencer à installer. Alors, si des personnes veulent nous aider, c'est le bienvenu. Il faudra qu'on soit un certain nombre. Merci de me contacter, vous qui pouvez venir. Comme ça, si on n'est pas assez nombreux, je me permettrai de vous relancer un petit peu. En tout cas, que ce soit vraiment un temps béni qu'on va passer à Coponnet samedi prochain. Des nouvelles des uns et des autres. Vous avez vu que Briand est rentré. Il était là hier soir. Continuons de penser à Briand, Hélène. C'est pas forcément simple. Il y a toute la question aussi de l'âge et de ses conséquences. C'est le cas aussi pour Annelise. C'est important aussi de remettre nos personnes les plus âgées dans la prière, de penser à eux, de les entourer aussi. Continuons de penser à Roland. Donc Roland a bien repris le boulot. Il est vite fatigué. Pensons à lui. Il a bientôt un rendez-vous avec son médecin pour faire le point par rapport à cette reprise de boulot. Et donc, continuons de le remettre dans la prière et de penser à lui de l'accompagner. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Je partage avec vous deux versets. Deux versets dans Psaume 121. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Amen. Bonne semaine, bon dimanche.